Paso doble.
Paso doble.
Vendredi, bande dessinée.
Bonjour tout le monde. Et au programme, aujourd'hui, une histoire intimiste. Quoi de plus intime que de raconter son enfance, sa généalogie? Une histoire intimiste racontée en petits chapitres, en plusieurs livres. Et le deuxième volet de la série Au travail de mon invité Olivier Josse-Hamel vient de sortir, édité par l'Association, une maison qui s'est imposée en renouvelant aussi bien les codes du roman graphique que ce genre littéraire qu'on appelle l'autofiction. Bonjour Olivier Josse-Hamel.
Bonjour Toufi Kakem.
Et avec vous, avec vos albums, vous êtes vraiment dans la philosophie de l'Association, puisque il s'agit tout à la fois d'un récit autobiographique avec une veine fantasmagorique, replongé dans son enfance, comme pour saisir les morceaux de puzzle de que forment ces souvenirs qui reviennent et que vous redessinez, puis tenter d'assembler les pièces pour comprendre d'où l'on vient. Pourquoi on dessine depuis l'enfance? Pourquoi avoir continué après de dessiner quand d'autres passent à autre chose? Pourquoi avoir épousé cette carrière d'auteur de bande dessinée? C'est pour répondre à ces questions que vous avez entrepris ce travail au long cours, puisque là c'est le deuxième tome qui sort, et je pense que vous avez prévu 4-5 livres, non?
J'aimerais bien faire 5, comme les doigts de la main. Je parle toujours de, quand on me pose la question combien de livres tu veux faire, de cette chanson des Pixies où l'auteur Frank Black dit si l'homme est 5, le diable est 6, Dieu est 7. Moi je me dis, bah, si tu es à hauteur d'homme, 5 c'est bien. Au début je me disais 7 parce que j'aime bien le chiffre 7. 7 livres ça commence à faire beaucoup. Et puis 5 ça peut suffire, j'aime bien ce 5. Et bah oui, pour répondre à ce que vous disiez, c'était un besoin au travail finalement. C'est une question, il est question de mémoire, il est question de famille, de généalogie, il est question de questions. Donc je me suis posé à un moment de ma vie la question, mais pourquoi tu fais de la bande dessinée? D'où ça te vient? Pourquoi tu t'accroches alors que c'est si difficile? Ça t'amène pas que des ennuis, mais pas non plus que des plaisirs. Donc peut-être que c'était une nécessité, clairement. J'ai commencé ça en 2007. À cette époque-là, c'était Nicolas Sarkozy qui était au pouvoir et qui en avait plein la bouche du mot travail, et plein la bouche, mais avec des choses qui ne me plaisaient pas du tout. À savoir, c'était très culpabilisant, ses propos sur le travail, le fait de gagner de l'argent. Moi, je fais de la bande dessinée, je gagne très peu d'argent avec, mais ça peut me poser des problèmes ou des questions. Mais c'est pas non plus la seule chose qui m'anime. Justement, il faut qu'il y ait un sens dans ce fait de faire de la bande dessinée. Moi, je fais au travail à l'Association, c'est pas un hasard du tout. J'ai d'abord été nourri de bande dessinée quand j'étais enfant, adolescent.
Et vous en parlez d'ailleurs très bien. On va sans doute aborder cette culture de la bande dessinée si présente. Enfin, culture, lecture d'abord, parce que là on est dans la lecture, dans la découverte, dans votre enfance. Vous racontez tout ça au travail. Mais cette envie de revenir sur cette période précise de votre vie, l'enfance, c'est pourquoi, Olivier Josse-Hamel, je me suis posé la question si c'était une idée de la paternité. Est-ce que c'est en devenant père que vous êtes posé ce genre de questions, ou bien avant?
Oui, je parle de nécessité, c'est pas que Nicolas Sarkozy, mais le terme au travail, je pense qu'il est lié à ce mot, un tiroir. Voilà, le travail, ça peut être bien des choses. Moi, je revendique complètement le fait que le fait de faire de la bande dessinée, c'est pour moi un travail, c'est-à-dire que c'est un labeur et en même temps un travail que je fais de mon propre chef, par goût, en lien avec d'autres choses qui m'ont nourri et qui m'ont demandé un travail de lecture. Voilà, un travail de la culture, c'est aussi un travail, c'est quelque chose qui se construit,
Construit au départ. Pourquoi vous revenez pourquoi vous axez sur votre enfance?
Ben, j'essaie de reprendre les choses là où elles ont commencé, parce que ça me semblait évident de partir sur les premières lectures. Ben, on se pose ces questions-là à presque 40 ans, et c'est évident d'aller puiser à la source. Qu'est-ce que la bande dessinée? À quel moment j'étais confronté à cette chose qu'on appelle bande dessinée. Donc avant de savoir lire, à un moment où, en effet, je venais de perdre mon père. Donc je recherchais dans la bande dessinée clairement, je pense, avec une certaine énergie, disons, j'ai trouvé dans la bande dessinée des images qui faisaient écho à ce que je ressentais intérieurement, mais que j'arrivais pas à me formuler. C'était trop confus, trop tabou aussi. Enfin, c'est la mort, voilà, c'est quelque chose dont on parlait pas autour de moi du tout. Donc il fallait bien que je me débrouille pour trouver un chemin et trouver des échos. Voilà. Puis moi-même, j'étais assez... Je pense que je formulais très peu enfant ces questions de deuil. Je posais pas tant de questions que ça sur mon père. Enfin, par mimétisme, je voyais du silence autour de moi, donc je faisais silence aussi, et tout se passait beaucoup à l'intérieur. Et la bande dessinée, c'est beaucoup ça aussi. Pour moi, c'est une aventure intérieure, avec cette lecture qui est quelque chose de très actif. Hein. L'auteur fait 50% du trajet au préalable, et ensuite le lecteur ou la lectrice fait l'autre moitié du chemin pour se rejoindre, à travers un objet livresque ou pas, mais en tout cas à travers la bande dessinée.
L'absence du père était développé dans le tome 1, dans le tome 2 de votre série Au travail, c'est beaucoup plus l'entourage, le matriarcat que vous abordez, avec toujours cette même façon de réinventer vraiment l'autofiction. C'est-à-dire que quand je dis une autofiction distanciée, c'est que ces souvenirs d'enfants qui vous reviennent et que vous redessiner, vous les faites avec toute la distance, c'est-à-dire on voit l'adulte qui est confronté à son enfance.
C'est vrai que c'est une relecture, le terme autofiction, moi je parle généralement d'autobiographie, mais il n'est pas incongru, c'est-à-dire que c'est moi, Olivier, qui, à l'âge que j'ai au présent, parle du passé, donc avec un rapport à la mémoire, évidemment... subjectif et qui va dépendre même suivant le jour où vous êtes devant votre page. Bon, c'est pas la même chose, quoi. C'est les humeurs, enfin, c'est complètement conditionné par rapport à comment vous vous sentez au moment où vous êtes au travail. Et donc il y a un rapport de choix, de responsabilité, parce que c'est un propos où j'engage ma propre parole, mais où j'engage aussi mon regard sur des gens de ma famille, certains morts, certains vivants. Donc il y a une part de responsabilité dans ce travail-là, finalement.
Et dans le traitement que vous faites de ces souvenirs d'enfants, de ces reconstitués, je le rappelle, par séquence, par puzzle, on a l'impression que, en même temps que le lecteur, vous essayez de chercher une cohérence, comme si vous replongez dans votre enfance pour essayer de comprendre pourquoi vous êtes l'homme que vous êtes devenu aujourd'hui.
Oui, c'est une quête d'identité, et puis donc j'espère que c'est pas trop onaniste, parce que voilà, moi je me sens en communication avec le lecteur que je ne connais pas et qui ne me connaît pas, enfin sinon par ce travail-là, mais c'est où je pense que c'est en lien évidemment avec le côté silencieux de ma famille, où moi j'avais je vois bien que j'aime parler, j'aime écouter, j'aime la relation humaine, j'aime la discussion. Et le fait de le faire en bande dessinée, c'est pas anodin, c'est-à-dire de prendre son temps pour poser les choses. C'est d'abord un travail de textuel, finalement, où je formule avec des mots un propos qui me sert de squelette.
Vous commencez par les mots, de fil rouge. Parce qu'on va parler maintenant du traitement très original. Vous commencez par les mots.
Oui.
Ça ne m'étonne pas, parce que c'est très littéraire, c'est très écrit. Je donne un exemple. Par exemple, une fois que vous avez raconté une histoire, un souvenir comme un flash que vous avez représenté, vous dites « Petit, je ne sais pas tout ça. Aujourd'hui encore, je ne saisis qu'en partie au fur et à mesure que j'en recolle les morceaux, que j'en recoule la tapisserie, à trous elle aussi. » À la base, du texte, des mots.
Oui, pour donner corps, sens, le dessin peut donner corps, sens.
Mais qu'est-ce qu'il y a ? Il y a juste ces mots, des souvenirs, où au fur et à mesure, vous inscrivez juste à côté votre idée de comment traduire ça graphiquement, parce que il y a un véritable travail sur comment traiter graphiquement d'un tel sujet introspectif.
Justement, le fait de donner une forme et un sens avec le travail du texte permet de dégager le dessin aussi du poids de quelque chose de trop didactique, explicatif. Donc le texte formule, et les deux sont sans cesse complétés en bande dessinée, de pas être redondant comme dans Black et Mortimer, où Black Mortimer se prend les pieds dans le tapis. Donc on le voit se prendre les pieds dans le tapis, il dit mince, je me prends les pieds dans le tapis, t'as le récitatif au-dessus, il se prend les pieds dans le tapis, donc on dit trois fois la même chose. Bon, c'est redondant et c'est pas intéressant. Black et Mortimer a plein d'autres intérêts, mais narrativement, bon, je pense que Jacob, s'il a un peu peur, très très peur qu'on le comprenne pas, ce qui est aussi mon cas, mais je fais en sorte de me faire confiance et puis d'avoir ce côté ouvert aussi, à la fois avec le texte, le dessin qui vient compléter, mais je me suis rendu compte...
Mais il y a plusieurs genres, on peut le dire, dans votre album. Il y a des souvenirs flottants et on a la représentation flottante dans les doubles pages avec des grands dessins complètement centrés, donc sans frontières. Mmh. Et il y a aussi toute cette partie aussi présente dans le premier tome que dans le deuxième tome qui est la réinterprétation de vos lectures de bandes dessinées. Spirou pour le premier tome, là c'est Tintin et l'île noire qui revient. Donc comment représenter le Tintin tel que vous l'avez lu, comment vous l'avez ressenti dans votre cas précis, et ça c'est aussi représenté, mais il y a aussi des parties qui ressemblent à de la bande dessinée classique, hein, en noir et blanc. Toutes ces manières d'aborder cette histoire, ça a été le fruit de réflexions, où vous êtes laissé guider par cet instinct, parce qu'on a vraiment l'impression que vous l'avez écrit beaucoup plus avec l'instinct de vouloir trouver quelque chose et d'accompagner les lecteurs dans cette quête.
La bande dessinée, c'est une activité qui est très sérielle. Donc, je me souviens quand j'étais au lycée avec mes copains de classe, on était tous passionnés de BD. On disait, l'obsession, c'était trouver son style. Donc, sous-entendu, un style graphique identifiable, reconnaissable. Voilà, et comme si, une fois qu'on a trouvé son style, c'est l'autoroute jusqu'à la fin. Quoi. Mmh. Alors qu'en fait, non, je me suis rendu compte, je me nourris pas que de bande dessinée. Enfin, j'adore la bande dessinée, mais adolescent, justement, j'ai découvert le cinéma d'auteur. Un peu la littérature aussi, donc d'autres formes artistiques, où, pour parler du cinéma, dont je parle très peu finalement jusqu'ici, mais qui a été vraiment hyper important, enfin découvrir la nouvelle vague ou tout un tas d'auteurs, enfin la notion d'auteur m'est apparue davantage avec le cinéma qu'avec la bande dessinée, ça c'est, et les wagons se sont accrochés en découvrant l'association qui avait clairement une politique d'auteur, voilà, la suite de Futuropolis. Futuropolis d'origine, etc. Enfin, à part faire toute l'histoire, mais elle existe, elle est importante. Et donc, sur le plan formel, je voyais des auteurs, comme Godard, Truffaut, Romère, tiens, la nouvelle vague, Chabrol, c'est quatre mecs là, il y en a d'autres, il y a Rivette et tout, il y en a pas mal. Et ils sont tous différents, ils ont tous leur identité. Voir leurs identités au pluriel, c'est-à-dire que le parcours de Godard n'est pas du tout le même que celui de Truffaut, et c'est vachement intéressant à observer sur la durée, sur le temps.
Et avec le décalage.
Voilà. Aussi, de voir ça dans
ce
les
n'est pas rien de rappeler que vous êtes né en 1968, c'est-à-dire que tous ces réalisateurs de la Nouvelle Vague avaient déjà imposé leur nom, leur style et leur premier film. Ouais.
Et puis c'était pas tellement au goût du jour, enfin il y avait un mec qui s'appelle Jarmusch qui arrivait à ce moment-là. Tiens, c'est quoi ça et tout? Ça, là, j'étais en face. Mais j'ai toujours bien aimé le côté confronté des... ça s'est fait comme ça, mais quand j'ai découvert la BD, c'était pareil. Hein. Enfin, c'est des Astérix, c'est Lucky Luke et Tintin et Spirou. Enfin, ça me précédait longtemps. Moi, je suis né en 68. La BD que je lisais à ce moment-là, quand j'avais 4, 5, 6 ans, c'était pas une BD qui était en face directe, c'était déjà ancien. Donc, il y a ce côté peut-être poussiéreux, regard, je sais pas, ça s'est fait comme ça. Et c'est vrai que c'est... j'ai perdu mon père, c'est pas anodin, donc le fait d'aller à la pêche, à la mémoire, et puis d'avoir besoin comme ça de...
Et de chercher les hommes, d'ailleurs.
De se repérer, quoi. Ouais.
Là, ça devient évident que ça a été un de vos objectifs, hein, vous qui êtes né dans un milieu de femmes.
Ben oui, moi j'adore ça, mais en même temps, ça manque je me sens bien avec les femmes. Seulement, j'ai eu besoin de reconnaissance avec les amis, d'avoir ces rapports approfondis, fraternels, ou même, moi je parle d'amitié, mais je parle d'amour aussi. C'est pour moi, quand on aime quelqu'un, que ce soit son ami ou son amant ou son amante. Il y a des différences, bien sûr, mais pas tant que ça, finalement. Ce côté... pouvoir communiquer, justement, pouvoir se parler, échanger sur des choses.
Une histoire personnelle que vous racontez, et cette histoire personnelle, bien sûr, rencontre l'histoire de la France, de la société. On va en parler avec vous, Olivier Josoamel.
À Saint-Nazaire, entre la Loire et la Brière, entre Paouette et puis la guerre, on vit sa vie à Saint-Nazaire. Le ciel est gris bien trop souvent, les nuages dansent avec le vent, c'est pas plus moche qu'à Manchester. À Saint-Nazaire, où c'est les grues qui tendent les bras, un marin du Jean-François, qui a pas encore péri en mer. À Saint-Nazaire, derrière le port, il y a des bistrots, qui sentent la base et puis le maquereau, et du rouge dans des verres à bière. À Saint-Nazaire, des fois par les jours de surois, ça sent le mazout et pas le feu de bois, Monsieur Pétrole fait les manières. À Saint-Nazaire, il y a très longtemps c'était la lande, où des beaux yeux couleur d'Irlande se noyaient entre ciel et mer.
Je ne sais pas si cette chanson vous a accompagné quand vous étiez enfant à Saint-Nazaire.
Je la découvre.
Olivier, je sois mal, mais vous racontez les gens qui travaillent dans le chantier Laval de votre grand-mère, par exemple, de ces femmes qui boivent, qui fument, mais par-dessus le marché osent même rigoler. Ça, c'est une photo que vous avez redessinée. Et vous dites, mais ces femmes qui bossent, j'en sens aussi les creux. Et c'est bien là ce qui m'émeut. Marqué, visage et corps témoignent d'une vraie trime, d'une réelle dureté. C'est de ce monde-là que votre enfance a été marquée par la bande dessinée, le dessin, l'absence du père aussi.
C'est vrai que ces photos, on est encore sur la question de la mémoire, c'est des témoignages d'une époque qu'on n'a pas connue, mais voilà, qui donnent, c'est des images. Mais bon, derrière les images, il y a aussi des réalités. Moi, je suis un homme d'image, hein. Clairement, c'est mon langage. J'aime bien le verbe aussi, enfin les deux ensemble. Mais justement, pour me repérer par rapport à d'où je venais, bon, clairement, par rapport à mon père, dont j'ai pas de souvenir conscient, c'est beaucoup les photos qui m'ont aidé, enfin en tout cas sur lesquels je me suis appuyé.
Mais pour vous, ce milieu ouvrier, c'est un monde disparu où il est très présent, y compris dans la manière dont vous abordez votre travail de dessinateur.
Je pense qu'il est très présent dans ma vie, dans la façon dont je me comporte, dans la façon le personnage principal du tome 2, là, Émile. Mon éthique vient en partie de cet homme-là. Quelqu'un qui parlait pas beaucoup, mais qui avait, j'en parle pas, c'est marrant dans le bouquin, mais c'est quelqu'un qui a fait tout son parcours professionnel au chantier naval de l'Atlantique, qui est électricien à la base, qui a commencé comme plein de gens à 13-14 ans à bosser, mais qui a toujours refusé, bon, il est monté un peu en grade, mais qui a toujours refusé de s'associer au ce qui s'appelait l'école blanc, voilà, il se méfiait beaucoup, il était clairement anarch, quoi, libertaire, mais
pas encarté. Ça se transmet, ça, cette culture.
Ce qui est marrant, c'est que ça se transmet dans le silence, par l'observation, c'est ça qui est fou, c'est-à-dire, je finis le bouquin sur Bretéché, Rézère et Sempé, c'est pas anodin. Voilà, donc clairement l'héritage post-68, de tout Harakiri, Charlie Hebdo, voilà, tout le dessinateur de gauche.
On n'a pas eu le temps, Olivier et Josué Hamel, de parler de votre rapport aux couleurs, du papier que vous choisissez pour raconter ces histoires, vos histoires, votre enfance dans cette série, éditée par l'association Au Travail. Il y a d'autres tomes qui sortent.
Oui, j'en ai prévu 5. Donc,
donc on va se retrouver bientôt.
Bah oui, dans quelques années.
Bravo pour ce beau travail, Au Travail. Merci d'être passé ce matin.
Merci beaucoup.